la flemme d'éviter les mauvais regards. Team jogging dans l'appart sans perdre mon porte à ma dignité, mes clés. Je suis dans un mauvais mood, je répondrai plus tard. Paris s'allume, ce qui manque c'est au sel. Il y a toute la fame, encore plus la flemme.
Ça ne me regarde pas, tu l'as foutu dehors et je respecte ton choix. Mais il voudrait revenir, d'accord, j'insiste pas. C'est mon ami quand même, non, c'est pas lui qui m'envoie. Ça me fait de la peine, vous alliez si bien ensemble. 6 ans de vie commune, mais je veux pas le défendre. Avec tout ce que vous avez vécu, avoue que c'est dommage. Et je te dis pas combien il souffre, ça serait du chantage. Muriel, je t'en prie. Je t'en supplie, dis-lui oui, dis-lui oui. Oh, 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 dis-lui oui. Depuis que tu l'as quitté, il habite chez moi. Je peux plus supporter Muriel et de moi. Il veut toujours qu'on parle et qu'on parle que de lui. La discussion consiste à l'écouter, à dire oui. Le seul moment tranquille, c'est quand il t'écrit. Mais les poèmes de 5 pages, après il me les lit. Il me raconte votre vie dans les moindres détails. Ce qui se passe dans votre lit depuis vos fiançailles. Je suis un gentleman, je répéterai pas, c'est intime. Rassure-toi Muriel, espèce de petite coquine. Dis-lui oui. Dis-lui oui. Depuis que tu l'as quitté, il habite chez moi. Je peux plus supporter Muriel et de moi. Il va et vient la nuit, à n'importe quelle heure. Il fouille dans ma chambre, pendant que je dors. J'ai frôlé la crise cardiaque, j'en ai encore mal dans le bras. Il a fait semblant d'être somnambule, pour que je l'engueule pas. Tu sais, c'est un être bien, mais je veux pas t'influencer. Il gagne pas mal sa vie, à deux c'est mieux pour le loyer. Voyons les choses en face, t'es pas non plus terrible. Regarde-toi dans une glace Muriel, faut être lucide. Dis-lui oui.
tu l'as quitté. Il habite chez moi, je peux plus le supporter. Muriel est de moi, dis-lui oui. Il a des torts, il t'a trompé, c'est vrai. Avec ta mère, d'accord, mais ramène pas tout à toi. Muriel, mon enfant, je t'aide parce que je t'aime bien. Mais on s'en sortira pas si t'y mets pas du tien. Je peux plus le supporter, Muriel est de moi, dis oui, oui.
Info locale, émission et surtout beaucoup de musique. C'est aux ondes FM 99.7, votre radio à Châtellerault. Et aussi sur ozondes.fr.
Il n'y a que toi et moi, deux oiseaux mouillés au passage protégé. Il n'y a que toi et moi, deux oiseaux mouillés qui n'osent plus bouger. Il y a ce train qui va t'emmener vers d'autres. Il n'y a que nous en sommes dans ce monde oublié. Il n'y a que nous en sommes. Et cette somme de nous sommes, de nous sommes, de nous sommes. Petits amis, pas trop bien réveillés. Il y a cet ascenseur qui ne veut pas s'arrêter. D'où on ne peut pas descendre, qui ne peut que monter. Il n'y a que nous en sommes dans ce lieu oublié. Il n'y a que nous en sommes. Et cette somme de nous sommes, de nous sommes, de nous sommes.
Des milliers, des milliards, des milliards. Contempler le même matin. FM 99.7.
De la journée, stress quand je rentre, je sais pas comment je vais la retrouver. Du coup, je suis relou, je compte les verres qu'elle boit. Parce que je sais qu'une fois qu'elle démarche, je la ramènerai pas. Elle va niquer la soirée, s'écouter, parler, me reprocher des trucs dont elle va même plus se rappeler. J'entends les bouteilles la nuit, elle tombe dans l'escalier. Je lui dis qu'elle boit trop, elle me dit que je bois plus assez.
Elle a les yeux qui portent en couillère, elle peut être la même merde en boucle, elle se met à pleurer, elle m'embrouillait au blé. S'endort dans le salon, dans la bouffe, une clope allumée, dans la bouche, veut mourir. Bébé bois, bébé bois, bébé tiste, bébé bois, bébé bois, bébé tiste, bébé bois. Bébé bois, bébé bois, bébé tiste, bébé bois, bébé bois, bébé tiste, bébé bois.
never to come back. I could not foresee this thing happening to you.
Sur 99.7. Vous écoutez la meilleure radio de Châtellerault. Aux ondes FM.
Aime-moi, prends-moi dans tes bras et je n'ai plus personne. Et ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps et si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois. Aucun cabron ne m'a touchée, à part toi, caballero. Non, personne ne m'a touchée. La cocaïne a pris ma famille. Je suis une clandestine amie, amie. La cocaïne a pris ma famille. Je suis une clandestine amie, amie. La cocaïne a pris ma famille. Je suis une clandestine à Miami. La cocaïne a pris ma famille. Je suis une clandestine à Miami. Ah, et si tu m'abandonnes, et si tu m'abandonnes, et si tu m'abandonnes, et si tu m'abandonnes, et si tu m'abandonnes. Et si tu m'abandonnes, et si tu m'abandonnes, et si tu m'abandonnes, et si tu m'abandonnes, et si t'as vu mes paroles. Quand je t'ai parlé de, t'as vu mes parents, t'as vu mes paroles. Moi et mon frère étions heureux, si tellement heureux. Un jour le feu a pris nos hommes, parce que d'autres l'ont décidé. Stable dans la cave, on sacrifie des destinées. Un jour le feu a pris nos hommes, parce que d'autres l'ont décidé. Des gringos stables dans la cave, on sacrifie des destinées. La cocaïne a pris ma famille. Je suis une clandestine.
I'll show mine if you show yours. Oh. Hey, hey, hey.
Bienvenue dans l'émission GuideAsso, le réseau de ressources et d'accompagnement de la vie associative locale. La vie associative d'une manière générale est un écosystème très vaste avec de multiples questions, de multiples problématiques, de multiples projets. Et souvent dans ces projets, on en arrive à la question de l'emploi en plus des bénévoles pour arriver à accomplir les missions et les objectifs que se fixe l'association. Aujourd'hui, nous recevons Cyrielle Berger, directrice du CRGE, et ça va tourner autour de cette question-là. Bonjour.
Bonjour.
Alors, commençons par les bases. CRGE. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors le CRGE, c'est le Centre de ressources pour les groupements d'employeurs. En fait, c'est une fédération qui accompagne en Nouvelle-Aquitaine et de plus en plus dans toutes les régions de France les projets qui consistent à partager des salariés entre employeurs, qu'ils soient sous forme d'associations, de collectivités publiques ou d'entreprises un peu plus classiques. Voilà.
Donc c'est vrai que quand on parle de groupement d'employeurs, on s'attend pas forcément à ce que ça colle avec le secteur associatif. D'où est-ce que ça vient ? Comment ça s'est fait ?
Alors, les groupements d'employeurs existent depuis 1985, hein, dans la loi en tout cas. Il y avait eu des expérimentations qui avaient précédé la loi. Et en fait, l'origine, elle est agricole. C'est-à-dire que dans le milieu agricole, il y a une forte habitude de coopération qui a conduit, dans les années 80, les agriculteurs qui mutualisent, toujours d'ailleurs, mais qui mutualisaient déjà à l'époque beaucoup de matériel, à se poser la question de comment employer à plusieurs des personnes pour utiliser ce matériel qui appartenait au collectif. Et donc, ils ont inventé la formule groupement d'employeurs en disant « et si on se regroupait pour embaucher des salariés agricoles qui interviendraient en fonction de nos travaux saisonniers chez l'un ou chez l'autre ?» Donc, une origine agricole du côté de Montmorillon, dans le département de la Vienne, en Poitou-Charentes à l'époque.
Donc on a des mots-clés qui sortent là, on a mutualisation, on a coopération, on a mise à disposition qui vient derrière. Je pense qu'on peut imaginer aussi, on entend souvent parler de portage salarial. Comment on fait le tri dans toutes ces terminologies ? À quoi ça correspond ?
Alors effectivement, peut-être il faut élargir un peu l'entonnoir, c'est-à-dire que les groupements d'employeurs font partie, avec le portage salarial, avec le travail temporaire, de ce qu'on appelle le prêt de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, on peut se prêter des collaborateurs, mais dans un cadre qui est très réglementé. Pour être un peu plus précise, quand on est dans le secteur lucratif, on va plutôt se tourner vers le travail temporaire quand on a des besoins urgents, ponctuels. Et là, le travail temporaire est un dispositif de prêt de main-d'œuvre qui est réglementé et qui s'inscrit dans le secteur marchand. Donc l'idée, c'est bien aussi de générer des profits sur les salariés qui sont prêtés aux différentes entreprises. Le groupement d'employeurs, on peut le percevoir comme le pendant du travail temporaire dans le secteur non lucratif, c'est-à-dire comment des employeurs ensemble décident, sans faire de profit hein, sur le fait de se prêter des salariés, et bien de se partager des collaborateurs en fonction de leurs besoins.
L'exemple cité tout à l'heure émergeait du secteur agricole. Là, aujourd'hui, C'est le secteur sportif qui a été très porteur là-dessus. Et puis c'est vrai que ça s'illustre bien avec, par exemple, un professeur d'une activité sportive thématique qui n'arriverait pas à trouver un emploi à 35 heures de manière pérenne dans une structure, va chercher une espèce de puzzle de choses. Alors, est-ce que c'est lui qui les cherche? Est-ce que c'est le GE qui les cherche pour lui? Comment ça se passe?
Alors c'est justement une différence fondamentale avec le portage salarial, qui est aussi un dispositif de prêt de main d'œuvre, où là, dans le cadre du portage salarial, c'est la personne qui va aller chercher ses propres contrats. Hein, donc il y a une autonomie relativement importante et ça concerne davantage des postes de cadre, on va dire. L'intérêt qu'y voient ces personnes, c'est d'avoir un portage d'un contrat de travail pour conserver le statut de salarié tout en jouissant d'une grande autonomie. En matière de groupement d'employeurs, le groupement d'employeurs qui est constitué sous forme d'association. Hein, aujourd'hui, c'est la forme juridique qui est privilégiée, qui embauche le salarié et qui ensuite le met à disposition auprès d'un certain nombre de structures qui sont intéressées, notamment des structures sportives. Et c'est le groupement d'employeurs qui se charge de trouver les missions pour les personnes qu'il emploie. Donc effectivement, c'est parti de l'agriculture, mais aujourd'hui on a des groupements d'employeurs dans pratiquement tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire que c'est parti de l'agriculture en se développant vers l'agroalimentaire, puis l'artisanat, les métiers du bâtiment, les métiers de l'industrie, et le secteur associatif est venu un petit peu plus tard, mais c'est vrai que le sport a été précurseur en termes de création de groupements d'employeurs dans le milieu associatif.
Donc là, dans la petite liste d'énumération, associatif, c'est quand même vaste, parce que l'associatif, il y a le médico-social, le sport, la culture, et j'en passe et j'en passe.
Tout à fait.
Est-ce que quelqu'un qui serait intéressé ou qui aurait un profil particulier dans l'associatif a vraiment des chances de trouver vraiment sur toutes les thématiques, ou il y a des zones blanches?
Il y a peu de zones blanches. Hein. Les seules zones blanches, elles sont réglementaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit en matière de groupement d'employeurs de partager des professions réglementées, de type
avocat,
expert comptable. Voilà. Sinon, il n'y a pas de limite. Hein. Et effectivement, ça répond bien à des problématiques de personnes qui ont plusieurs contrats à temps partiel ou qui sont aussi pour certaines travailleurs indépendants. Hein, et qui souhaitent compléter leurs revenus en travaillant à temps partiel. En fait, c'est de se dire, voilà, moi je suis concernée par plusieurs employeurs. Est-ce que j'aurais pas intérêt à réunir tous ces employeurs en leur proposant de rejoindre un groupement d'employeurs? Ce qui me permettrait à moi, en tant que salarié, d'avoir un seul contrat de travail, une seule fiche de paye, et de pouvoir continuer à faire ce que j'aime faire, à savoir travailler au quotidien ou au cours d'une même semaine auprès de plusieurs structures. Donc ça fonctionne très bien avec les animateurs sportifs, effectivement, qui peuvent, par exemple, intervenir à la fois pour des clubs sportifs, mais aussi pour des comités, par exemple, départementaux, ou pour des collectivités. C'est-à-dire on a des éducateurs sportifs qui, pendant la période scolaire, donnent des cours dans les clubs sportifs, et l'été, qui peuvent être recrutés par la mairie pour assurer la surveillance de baignade, par exemple, de la piscine municipale. Ce qui fait que sur l'année, la personne, elle se retrouve à avoir un temps de travail complet et donc un salaire aussi qui lui permet de vivre correctement.
Donc on parle de types de salaires qui vont être pas forcément sur 35 heures, enfin de types de contrats, pardon, qui vont pas être forcément sur 35 heures et qui peuvent être multi-profil en termes de personnes morales. C'est-à-dire qu'on pourrait, alors après tout le monde a peut-être pas, et c'est l'utilité peut-être de cette émission, tout le monde n'a peut-être pas la notion que, si j'ai bien compris, on pourrait avoir dans ses employeurs, via le groupement d'employeurs, l'éducation nationale, un club sportif et pourquoi pas peut-être une entreprise. N'importe qui peut adhérer en tant que personne morale au GE.
Exactement, oui. Tout type d'employeur, quelle que soit sa forme juridique, son statut, qu'il soit de droit privé, de droit public, peut effectivement adhérer au groupement d'employeurs et donc accueillir un collaborateur pour partie de son temps. Et c'est tout l'enjeu justement d'un groupement d'employeurs qui s'organise à l'échelle d'un bassin d'emploi. Hein. Il n'existe pas réellement de groupement d'employeurs de dimension régionale ou nationale. C'est plutôt comment à l'échelle d'un bassin d'emploi, d'un bassin de vie, je reconstitue les fragments d'emploi qui existent et donc je propose aux employeurs qui consomment ou qui utilisent des temps partiels de se regrouper pour justement permettre à des personnes d'accéder à des travaux à temps complet, sachant qu'on travaille beaucoup sur la transversalité des compétences. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un secrétaire comptable, ce secrétaire comptable peut tout à fait intervenir pour partie de son temps dans une association, pour partie dans une entreprise plus classique de type garage automobile, je prends cet exemple, et pour partie de son temps auprès de la communauté de communes. Voilà.
Donc s'il arrive à convaincre ses trois employeurs d'adhérer à un GE, après, lui, n'a plus qu'une fiche de paye.
Exactement.
Et ça se passe comment pour... Parce que là, on a parlé côté salarié, côté entreprise. Ça va être quoi? Ça va être une facture de base, TTC, etc. Et c'est le GE qui se charge de toute l'administration des charges...
Exactement. Oui, exactement. C'est-à-dire que l'avantage pour l'entreprise, c'est effectivement de confier à un tiers, qui est le groupement d'employeurs, toute la partie administrative de gestion de l'emploi. C'est-à-dire que c'est bien le groupement qui s'occupe des aspects contrat de travail, rémunération, fiches de paye, formation. C'est le groupement qui gère ses salariés. Donc l'entreprise, notamment pour les plus petites d'entre elles, plus petites associations, c'est valable également. C'est un confort quand même de pouvoir accueillir des salariés, professionnaliser ses activités ou développer son activité quand on est dans le secteur plus concurrentiel, sans avoir la lourdeur que ça peut constituer, d'embaucher des salariés. Je pense notamment aux bénévoles qui n'ont pas forcément, quand ils s'engagent dans une association, la vocation d'être employeur. Ce qui les intéresse, c'est avant tout le projet associatif, pas nécessairement de recruter et d'accompagner des salariés au quotidien. Donc c'est une manière plutôt souple et intéressante pour les entreprises.
On a la chance, entre guillemets, en France, d'avoir une multiplicité de conventions collectives, une multiplicité de codes, etc. Avec chaque fois, et on l'entend souvent en tant que guide asso, quand on intervient et qu'on accompagne des assos, « Ah oui, mais nous, c'est pas pareil, ça marche comme ça. » On peut peut-être prendre là l'exemple qui me vient en tête. Il y a le GUSO qui existe dans le système. Alors, est-ce que des choses cohabitent ou est-ce que on peut laisser tomber le GUSO du spectacle occasionnel et passer par des GE? Comment ça?
Oui, tout à fait. Il y a le chèque emploi associatif, il y a le GUSO. Enfin, il y a des dispositifs qui visent à simplifier l'embauche en direct de collaborateurs. Là, on est dans une démarche un peu différente. Alors, rien n'interdit à un groupement d'employeurs d'avoir accès à ces outils facilitants. Mais en général, à partir du moment où ils commencent à mutualiser un certain nombre de salariés, ils embauchent une personne qui gère le groupement d'employeurs au quotidien et qui prend en charge toutes ces démarches administratives. Et puis pour répondre plus précisément à votre question de tout à l'heure, effectivement, je suis une entreprise, je me dis que peut-être j'ai des besoins saisonniers, j'ai des besoins d'emploi à temps partiel, que j'ai des difficultés de recrutement comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Ben, je vais m'adresser à un groupement d'employeurs, on en a forcément un près de chez soi, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, ça c'est certain. On prend contact et puis ensuite on présente son projet. Le groupement est là aussi pour accompagner dans la rédaction de la fiche de poste, pour préciser vraiment le besoin et être certain de trouver la bonne personne par rapport aux besoins de l'association. Donc effectivement, on adhère au groupement d'employeurs en tant qu'entreprise pour un montant de cotisation qui est souvent symbolique. Et ensuite, on paye chaque mois la part de salaire et de charges sociales de la personne qu'on a accueillie et on paye au prorata du temps que la personne a consacré à notre propre structure.
La flexibilité en filigrane de tout ça, ça revient à dire que le salarié peut obtenir un temps complet via différents employeurs qui ne l'emploient pas forcément, eux, à temps complet. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, pour rebondir sur le terme de saisonnalité, ça va être un temps complet par rapport au GE,
tout
pour
à
le
fait.
Salarié, mais pas forcément par rapport aux missions qu'il remplit.
Exactement.
D'accord. Est-ce que on est sur quel type de contrat? Est-ce que ça va forcément être du CDI vis-à-vis du GE ou est-ce que ça peut aussi être du temps partiel ou du CDD? Est-ce que tout rentre dans les cases?
Alors l'idée de départ, elle est quand même de proposer des emplois les plus durables possibles, donc plutôt sous forme de CDI à temps complet. Voilà. Aujourd'hui, il y a à peu près 70% des emplois en groupement d'employeurs au plan national qui sont sous forme de CDI à temps complet. Pour autant, le groupement d'employeurs peut proposer du temps partiel, notamment si c'est du temps partiel qui est choisi par le salarié, également des contrats de travail, des CDD, des contrats d'alternance, enfin toutes les formes de contrats et de temps de travail sont possibles. L'idée, c'est que ça convienne surtout aux salariés, et c'est le groupement qui prend l'engagement, si le souhait du salarié de travailler à temps complet, eh bien de lui proposer des missions à hauteur du temps de travail souhaité.
D'accord. De toute façon, tout repose en termes de contrat sur une acceptation réciproque des conditions. Donc effectivement, on peut imaginer que des personnes avec des profils polyactifs pourraient avoir une activité, alors je vais dire d'auto-entrepreneur ou d'indépendant d'un côté, et d'aller chercher un complément via un GE. Tous les montages ont été prévus par ce texte de loi, du coup.
Exactement, ça se voit beaucoup dans le secteur agricole, des exploitants qui veulent compléter leurs revenus en travaillant pour d'autres exploitations, et donc ils passent par la formule groupement d'employeurs, puisqu'ils cotisent aussi en étant salariés pour partie de leur temps, ils cotisent différemment, donc ils trouvent que c'est une solution intéressante. Ça se voit beaucoup aussi avec des artisans, qui, quand ils ont une baisse d'activité, se disent ben, j'ai un savoir-faire, autant que je le mette à disposition d'autres structures, et donc qui, pour une partie de leur temps, il n'y a pas d'engagement dans la durée. C'est-à-dire, je peux signer un contrat avec un groupement d'employeurs, un CDI à temps partiel, par exemple, ou un CDD pour 3 mois, et ensuite je me replie sur mon activité d'origine. Donc oui, c'est tout à fait possible, et on peut prendre un exemple que je trouve plutôt illustrant de ce que peut proposer un groupement d'employeurs, qui est le groupement de l'île d'Oléron, qui existe depuis une trentaine d'années maintenant, et en fait qui évidemment est très concerné par la thématique de la saisonnalité. Et donc ce groupement a permis à des centaines de personnes originaires de l'île d'Oléron de rester vivre sur leur île et de pouvoir accéder à du logement, ce qui est compliqué dans des territoires aussi touristiques, en proposant à des personnes de les embaucher et de les former pour les accompagner à pouvoir exercer plusieurs métiers. Ce qui fait qu'on a des personnes qui travaillent pour partie de leur temps, on va dire quelques mois dans l'année, dans des cabanes ostréicoles pour conditionner des huîtres, et qui le reste de l'année travaillent en accueil dans des établissements de type hôtel ou camping. Voilà.
Ou pour le coup, centres sociaux, etc., si on revient sur la dimension associative.
Exactement.
Et du coup, ça nous amène un peu sur... c'est vrai qu'au début, je n'avais pas complètement saisi. Je me disais, GE, alors on a les salariés, on a les employeurs, et on a la dimension territoriale, donc politique, on va dire. Donc effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, les communautés de communes, les mairies, les départements, ont cette sensibilité? Est-ce que c'est un axe de travail à développer, ou est-ce que ça va? Parce que effectivement, ça évite, clairement, de ce qu'on vient de dire avec l'île d'Oléron, une disparition d'un bassin de population et de travail, en fait.
Exactement, ça suscite plutôt un intérêt et un accompagnement, en tout cas, ou une promotion de cette possibilité de mutualiser des emplois de la part des institutionnels, que ce soit au niveau national, au niveau régional ou au niveau local. Et je pense justement que ces collectivités, au sens large, peuvent avoir un rôle très important dans le faire connaître. Parce que effectivement, on peut avoir des salariés qui connaissent la formule, qui vont aller proposer à des employeurs de rejoindre un groupement, mais ça reste quand même aujourd'hui un dispositif assez peu connu, et donc toutes les forces vives sont les bienvenues pour faire connaître, et notamment les institutionnels. Et c'est vrai que de plus en plus, ils s'y intéressent aussi pour maintenir une activité sur un territoire, et c'est intéressant aussi de proposer notamment des activités sportives, culturelles, sociales. Quand on veut attirer une partie de la population qui a des enfants, qui veut s'installer dans la durée, ben si j'accompagne la création de groupements d'employeurs pour qu'il y ait des services type loisirs, eh ben c'est, je permets à mon territoire de continuer de vivre et de se développer. Donc c'est important.
Du coup, sur cette thématique, deux petites choses. Accompagner à la création, c'est facile de créer un groupement d'employeurs?
Oui, c'est facile. Ce sont quelques démarches administratives et juridiques, pas bien compliquées, pour lesquelles on accompagne, nous, au niveau du centre de ressources.
Ouais.
Exactement. Nous, on est financés et soutenus par la région Nouvelle-Aquitaine et par la direction régionale de la Nouvelle-Aquitaine, la DREITS, pour accompagner les personnes qui veulent soit rejoindre un groupement d'employeurs, soit créer un groupement d'employeurs. Voilà, donc c'est facile. Voilà, le plus compliqué, si tant est que ce soit compliqué, c'est de faire vivre et d'animer le groupement d'employeurs pour qu'il soit toujours en perpétuelle évolution.
Et du coup, on pourrait se dire sur la même thématique que peut-être ce qui bloque psychologiquement, je ne sais pas, plus que techniquement, les institutions à se mettre en ligue avec un groupement d'employeurs, c'est peut-être le fait de dire oui, mais ce n'est pas des agents administratifs, donc ça ne va pas marcher, etc. Ça fonctionne
Alors là, on touche du doigt, effectivement.
C'est une facturation, mais...
Oui, mais par rapport au soutien des collectivités, effectivement, aujourd'hui, elles ont davantage une posture de promoteur de l'emploi mutualisé. En tant qu'utilisateur, ça progresse, mais c'est vrai que ça veut dire qu'on accueille des personnes qui sont contractuelles, qui relèvent donc du code du travail, donc sous statut privé. Parfois, ça reste assez mal connu de la part des collectivités, ou parfois aussi c'est un choix que de dire je préfère travailler avec des agents publics. Mais en tout cas, je crois que par nécessité dans certains secteurs d'activité, les collectivités vont y venir. De plus en plus.
Où on sent bien qu'elles peuvent y avoir intérêt, en tout cas.
Tout à fait. J'insiste sur les rythmes scolaires, puisqu'on a vraiment de très beaux exemples. On a un exemple à Poitiers, notamment, auquel adhère la mairie de Poitiers. Et en fait, on a des collaborateurs qui sont embauchés par le groupement et qui travaillent pour la mairie sur les temps périscolaires, je pense temps de cantine, notamment, et qui, le reste du temps, l'après-midi, le matin, travaillent dans des maisons de quartier ou des centres de loisirs de Poitiers. Donc là, on est dans un bel exemple de complémentarité secteur public, secteur privé, avec des personnes qui ont des emplois durable. Si ces personnes avaient travaillé uniquement pour la collectivité sur les temps périscolaires, on aurait été sur des très très petits temps de travail.
Et donc des petits salaires, et donc une problématique de logement et de vie économique, etc.
Exactement.
Autre joli profil de la France, on parlait tout à l'heure de la galaxie de codes divers et variés. On a toujours l'impression qu'on est dans le coin de quelque chose. Et là, pour le coup, dans la Vienne, on est dans le coin supérieur droit de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, le mot-clé qui était donné tout à l'heure, c'était la notion de territoire. Mais là, pour le coup, on est à la fois proche d'une autre région, etc. Comment ça se passe pour le bassin qui occupe le GE peut pas sortir de... Est-ce que le GE, un GE local peut embaucher quelqu'un à l'autre bout de la France ou...
Oui, oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite administrative. C'est-à-dire, je peux être un groupement d'employeurs dans le sport, par exemple, basé à Poitiers, et pour autant organiser un partage d'emplois dans les Deux-Sèvres, par exemple. Ce qui est important, c'est que les salariés n'aient pas des temps de travail trop importants. On ne va pas leur demander, s'ils habitent à Poitiers, d'aller travailler au quotidien à Niort. Par contre, si on a un profil intéressant qui souhaite travailler pour notre groupement d'employeurs qui habite Niort, bien à nous de trouver des associations, des collectivités qui, autour de Niort, seront intéressées pour embaucher cette personne. Donc il n'y a pas de limite de frontières administratives. Il faut que ça reste avant tout cohérent pour le salarié et pour les adhérents.
Et donc j'ai vu sur le site internet du CRGE qu'il y avait aussi un peu, donc c'est inhérent, mais une dimension politique, c'est-à-dire il y a un observatoire qui sert à faire remonter de la donnée, et puis il y avait aussi une représentation collective, un accord collectif par rapport à ce type d'emploi, puisque c'est peut-être un peu nouveau et qu'il fallait donner des choses. Qu'est-ce qu'il en est?
Oui, c'est vrai qu'au niveau de la Nouvelle-Aquitaine et donc ce qu'on peut faire au niveau du CRGE, hein, grâce au soutien de la région et de la DRETS, on a à cœur d'observer aussi l'évolution des groupements d'employeurs, notamment en termes de volumétrie d'emploi, en termes de typologie d'adhérents, en termes de répartition entre les secteurs d'activité qui ont recours aux groupements d'employeurs. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant et ça nous permet, nous aussi, d'orienter nos actions en fonction de ce que l'on peut observer. Alors effectivement, la relation de travail dans un groupement d'employeurs, c'est une relation qui est un peu différente de celle qu'on connaît habituellement. En général, on a un employeur, un salarié. Là, on se trouve dans une situation de travail avec trois parties en présence. On a le groupement d'employeurs qui est l'employeur, le salarié qui a un contrat de travail avec le groupement et la structure qui finalement accueille régulièrement un salarié avec lequel elle n'a pas signé de contrat de travail. Et aujourd'hui, ce travail à temps partagé n'est pas prévu dans les textes. C'est-à-dire que dans le code du travail, on a quelques éléments qui nous permettent d'organiser, de sécuriser les choses, mais on pourrait aller beaucoup plus loin pour proposer un véritable statut aux personnes qui sont salariées de groupement d'employeurs et qui travaillent à temps partagé avec des problématiques politiques et des besoins qui ne sont pas nécessairement les mêmes que quand je travaille pour une seule entreprise. Donc effectivement, avec les organisations syndicales et patronales de Nouvelle-Aquitaine, elles ont signé un accord collectif, une forme de convention collective qui crée des droits nouveaux pour les salariés de groupements d'employeurs de la région.
Après, là, des fois, c'est vrai qu'avec cette collection de, si on va sur Légifrance et qu'on s'amuse, alors, est-ce qu'on s'amuse à aller surger Légifrance? Je sais pas. Mais on peut voir, là, toute cette, comme je disais, galaxie, écosystème de textes. Il y a des choses qui sont prévues un peu partout. Là, pour le coup, c'est vraiment histoire de les rassembler et de les rendre cohérents. Parce que, du coup, si on parle responsabilité, un salarié qui est embauché par un GE, quand il est mis à disposition d'une personne, d'une structure tierce, ça ne dégage ni la responsabilité du GE, ni la responsabilité code du travail, etc., de la structure tierce.
Oui, tout à fait. Il y a une forme de partage de la responsabilité. C'est-à-dire que la structure qui accueille le salarié, elle reste responsable de ses conditions d'exécution du travail. C'est-à-dire qu'elle doit notamment lui assurer toutes les conditions de sécurité pour que sa mission se déroule parfaitement. Donc il y a un partage des responsabilités aujourd'hui qui est formalisé hein, dans un contrat entre le groupement d'employeurs et la structure d'accueil. Donc les choses sont claires. Mais on pourrait probablement faire mieux si on s'inspirait de ce qui a été mis en place en Nouvelle-Aquitaine autour de cet accord collectif pour réfléchir à une convention collective spécifique au groupement d'employeurs qui permettrait finalement de clarifier le partage des rôles et des responsabilités entre les trois parties que j'évoquais tout à l'heure.
Oui, parce qu'effectivement, les gens pourraient craindre, côté entreprise ou côté salarié, que ce soit un vaste flou juridique. Donc il y a des choses qui... De toute façon, le processus est suffisamment jeune pour qu'il ait encore besoin d'évoluer et de s'encadrer. Mais il y a des choses à avoir. Par exemple, les groupements d'employeurs peuvent se doter d'un CSE. Le CSE va être au niveau du groupement d'employeurs.
Oui, tout à fait. Comme une entreprise de droit commun, hein, le groupement d'employeurs effectivement organise des élections quand il y est contraint. Et nous, notre croyance hein, au CRGE, c'est de proposer ou de d'accompagner ou d'encourager le dialogue social dans les groupements d'employeurs et de pas nécessairement attendre d'être confronté à l'obligation, parce qu'on est effectivement dans une formule aussi un peu particulière, c'est-à-dire que j'emploie des collaborateurs que je ne vois pas au quotidien. Pour autant, c'est important de faire collectif, de créer un sentiment d'appartenance, d'entendre aussi les difficultés ou les besoins que peuvent avoir des salariés qui ne travaillent pas au quotidien avec leur employeur. Et donc, c'est parfaitement le rôle du dialogue social et des instances de type CSE dans les groupements d'employeurs.
Oui, pour éviter tous les thématiques actuelles hein, de risques psychosociaux, de stress, de burn-out. Quand on est dans un groupement employeur, surtout ne pas se sentir isolé et tout seul en bout de chaîne, mais il y a possibilité d'avoir une représentation au niveau central avec le groupement d'employeurs.
Oui.
Et j'ai vu un petit mot-clé sur le site qui me disait, alors par rapport à l'Europe, est-ce que là on sert d'exemple? Est-ce qu'il y a des exemples dans d'autres pays? Est-ce qu'on peut se vanter d'avoir inventé quelque chose avec...
Oui, en tout cas d'avoir inspiré d'autres pays en Europe qui ont repris la formule groupement d'employeurs. Hein. Je pense à l'Allemagne, à la Belgique, à l'Autriche. La Commission européenne est très attentive effectivement à cette forme d'emploi. Donc il existe hein, des groupements d'employeurs dans les pays que je citais tout à l'heure. Alors sous des formes réglementaires qui sont différentes puisqu'on n'est pas régi par le même code du travail au niveau européen. Mais en tout cas, la philosophie est très, très similaire. Donc on a beaucoup sillonné les pays d'Europe avec Franck Joubert, qui a été le fondateur du CRGE, pour justement exporter cette formule et donner à d'autres pays l'envie de se lancer.
Donc à surveiller l'évolution des groupements d'employeurs en France et peut-être à un moment un groupement d'employeurs européen qui permette de faire de la saisonnalité entre Berlin, Genève et
pourquoi pas
et Poitiers. Pour résumer, pour conclure, pourquoi est-ce qu'on viendrait sur un GE si on est entreprise ou si on est salarié?
Bah, si on est entreprise, je dirais actuellement, on a probablement des difficultés à trouver des salariés. Le groupement d'employeurs n'aura pas nécessairement les réponses à toutes les problématiques ou en tout cas les profils tout de suite disponibles à mettre à disposition. Pour autant, ça vaut le coup quand même d'essayer puisque le groupement d'employeurs, c'est son métier. C'est-à-dire son métier, c'est d'identifier sur le territoire les compétences pourquoi pas d'aller chercher dans d'autres territoires des compétences dont le territoire a besoin, de les former. Donc on a un vivier qui existe. Donc ça vaut le coup au moins de s'adresser au groupement d'employeurs près de chez soi pour exprimer son besoin et co-construire avec le groupement d'employeurs le recrutement adéquat.
Et en termes de salariés, si on a des envies, eh ben, allez voir s'il y a des possibilités.
Oui, exactement. Si on pense que ça peut être intéressant de compléter son temps de travail, même si on a envie aussi d'une forme de diversité. Aujourd'hui, on a des collaborateurs typiquement qui refusent les CDI dans les groupements d'employeurs, mais qui retrouvent quand même dans le groupement d'employeurs une forme de liberté du fait de ne pas travailler chaque jour dans la même entreprise. Donc ça, c'est un facteur d'attractivité de plus en plus constaté par les responsables de groupements d'employeurs.
Eh bien, merci pour tout ça.
Merci, merci Patrice.
Retrouvez Guy Dasso sur les réseaux sociaux, Facebook Guy Dasso 86, LinkedIn Guy Dasso 86. Nous avons même un arbre à liens, linktree.com/GuyDasso86, pour retrouver tous nos référents et contacts de vie locale dans la Vienne-et-Gartempe, dans le Grand Châtellerault, dans le Loudunais, dans le Haut-Poitou, dans le Civrésien et sur Grand Poitiers. Merci.